Ah, bienvenue, vous êtes dans le cours « La mort dans la cité », qui est vraiment une introduction à la pensée de Francis Schaeffer, comme je dis à chaque fois. Et ce matin, on va terminer la leçon 3, voire la leçon 4 ensemble. Si vous avez besoin, il y a quelqu'un qui m'a demandé encore ce matin, vous êtes censé recevoir, ça a fonctionné cette semaine, là, ceux qui sont sur la liste d'envoi, vous êtes censé avoir reçu les leçons. Si vous aviez inscrit votre nom sur la liste d'envoi le premier dimanche, cette liste-là, papier, a été perdue. Alors, on est désolé, on l'avait laissé à l'arrière, puis disparu. Alors, simplement remettre votre nom, il y a encore la liste est disponible. Inscrivez votre nom, vous allez pouvoir les recevoir. Sur le site web, vous allez trouver les leçons précédentes en PDF et les versions audio aussi. D'accord? Et puis, on devait vous revenir, là, je vais essayer de faire un suivi, on devait vous revenir avec la possibilité d'acheter le livre. On l'a trouvé dans certaines librairies, le livre de Francis Schaeffer, dans les bonnes bibliothèques aussi, s'il y en a là, qui vont dans les collèges bibliques. Vous allez trouver ça ou à Sambeck aussi. C'est possible de l'emprunter. Ma copie serait disponible après le cours. Alors, je m'appelle Yannick Étier. On va commencer ensemble avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, alors qu'on écoute le discours que tu nous livres à travers le livre de Jérémie, à travers la lettre de Paul, Seigneur, on veut se rappeler que ce que tu désires, c'est... une religion qui vient du cœur, qui vient d'une communion personnelle avec toi, qui n'est pas ancrée dans un formalisme, dans des rituels ou dans des fausses sécurités, mais dans une véritable communion avec toi, un désir de te connaître, de porter ton nom, de te ressembler. Et tu sais, Seigneur, combien nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'être éveillés, réveillés, rappelés à l'ordre, parce que notre mode par défaut, et bien souvent, ce formalisme-là, Seigneur, qui voit la communion avec toi, qui voit le christianisme comme un ensemble de listes à cocher, Seigneur, pour s'assurer qu'on est « on track », comme on dit en anglais. Ce n'est pas ce qu'on désire, Seigneur. On veut être en communion avec toi véritablement, à l'écoute de ton esprit, c'est mon désir. Parleur pour m'entendre. Intéressant. Jonathan va rester assis à la console pour les prochaines minutes, je crois. Merci, John. OK, alors un petit retour sur la leçon 4, revoir certains éléments, puis on couvre la leçon 3, puis on couvre la leçon 4. La leçon 4 est brève, alors on va réussir ce matin à se mettre à jour. Dans notre temps avec le cours, ce qui est bien. Je m'excuse une petite seconde. Voilà. En somme, ce que Dieu reproche au peuple d'Israël sous le ministère de Jérémie, à travers son serviteur Jérémie, c'est résumé dans vos notes à la page 2 de la leçon 3. L'abandon de Dieu par le peuple d'Israël était caractérisé par 4 éléments que Francis Schaeffer fait ressortir. La stérilité d'une religion purement formaliste, alors le fait qu'ils appartenaient au peuple de Dieu, qu'ils avaient le temple, toutes ces choses-là faisaient que pour eux, ils étaient en règle sans nécessairement examiner dans leur cœur s'ils cherchaient à obéir à la loi de Dieu dans l'esprit de la loi plutôt que simplement mettre des petites cases sur des coches et décocher dans des petites cases. Et c'est littéralement ça que Dieu reproche à Israël. Dieu leur reproche d'avoir une fausse sécurité, une sécurité dans le fait qu'ils sont fils d'Abraham, descendants d'Abraham. Puis là, vous pouvez entendre tout le discours que Jésus va livrer à Israël lorsque Jésus va venir. C'est la même chose qu'il va dire aux pharisiens, d'accord? Maintenant, c'est possible pour nous de vivre ça aussi. La société nord-américaine, le Canada, le Québec, il y a 50 ans, tout le monde aurait dit tout simplement qu'ils étaient chrétiens. Puis le Québec, il y a 30 ans, même si peu de gens allaient à l'église, les dimanches, à la messe, les Québécois se seraient encore définis comme des chrétiens. Et si on faisait un sondage aujourd'hui, encore aujourd'hui, la majorité des Québécois, La grande majorité encore aujourd'hui dirait qu'ils sont chrétiens. Puis bon, c'est en train de changer. Société post-moderne, post-chrétienne, de plus en plus des gens vont ouvertement dire « je ne suis d'aucune religion ». Et ce changement-là, cette transformation de la société s'opère très, très rapidement. Mais est-ce qu'il y a une seule de ces statistiques-là où on disait « je suis chrétien » qui était vraie? Puis lorsqu'on arrive, là, notre sécurité à nous peut se situer dans le fait qu'on se dit « ben, nous, on est des évangéliques ». Donc, dans nos églises, on n'enseigne pas le salut par les œuvres. Il n'y a pas ces fausses doctrines-là. On ne prie pas les saints. Et donc, parce qu'il y a juste, en principe, la sainte doctrine, on l'espère, bon, à ce moment-là, on est à l'abri. Ben, en principe, c'est ça qu'il y avait, juste la sainte doctrine sous le ministère des chefs religieux lorsque Jérémie était prophète. Donc, ce n'était pas un cas de fausses doctrines ou d'hérésie enseignée par les chefs religieux. D'accord? Mais il y avait ce formalisme-là. Donc, ce formalisme-là nous guette, nous aussi, à 100%. Et puis, de manière beaucoup plus réelle, peut-être, pour la majorité d'entre nous, puisque à peu près tout le monde ici, vous êtes ici ce matin parce que vous avez personnellement fait un choix d'adhérer à la foi chrétienne. Ce n'est pas la foi de vos parents, c'est la vôtre. Mais on est aussi menacé de formalisme religieux, n'est-ce pas? De s'asseoir sur le fait que je fais mon devoir religieux, je peux cocher mes cases, puis ma sécurité est là. Et clairement, Jésus allait dans l'autre sens complètement lorsqu'il disait que le jour allait venir où il allait y avoir des adorateurs en esprit et en vérité. Ça s'oppose complètement à cette idée-là de formalisme religieux. Ensuite de ça, ce qu'il leur reprochait, c'était l'apostasie générale du peuple. Le peuple, en général, avait littéralement et se vouait à d'autres dieux, adorait d'autres dieux et avait abandonné carrément la foi. C'est le cas en Occident. C'est la réalité de l'Occident. L'Occident qui a été énormément exposé à l'Évangile. Beaucoup exposé à l'Évangile. Tout l'Occident. Beaucoup exposé à l'Évangile. Dans son histoire. Mais qui a apostasié, qui a abandonné cette foi-là. On peut toujours le regarder sous deux angles. J'ai fait souvent référence au petit documentaire « Heureux naufrage ». Mais dans « Heureux naufrage », ce qu'on entend, c'est des gens qui s'identifient avec la société qui a rejeté le christianisme et a dit « notre constat à nous, c'est qu'il y a un vide spirituel ». Donc, c'est des gens qui sont en quête, qui cherchent. Certains d'entre eux sont croyants. Est-ce qu'ils ont saisi l'Évangile ou non? Ça, c'est un autre paire de manches, c'est une autre question. Mais ils sont croyants dans le Dieu de la Bible. Mais d'autres, non. Puis ils font juste regarder la société, puis ils font un constat. Ils disent, il y a un vide. Hier, il y avait un mariage ici, et puis mon épouse et moi, on discutait avec une dame d'une des deux familles, tout ça, belle discussion, super intéressante. Et puis Esther me disait ce matin, ben la dame, c'est ça qu'elle disait. Elle dit, il y a un vide spirituel, il y a une espèce, elle dit, les Québécois sont des orphelins historiques, ils ont perdu toute leur histoire, et les Québécois sont orphelins spirituellement. Ça, c'est juste, mais c'est vu de cet angle-là où je fais partie du lot. C'est pas vu avec le regard de Dieu. Le regard de Dieu, c'est vous n'êtes pas orphelin. Vous avez quitté la maison de Dieu. Vous m'avez rejeté et je me suis retiré de vous. Fait que oui, dans un sens, vous êtes orphelin, mais vous comprenez que c'est pas papa qui vous a abandonné. C'est vous qui avez rejeté Christ. Et ça, c'est la perspective de Jérémie. Puis lorsqu'on regarde l'histoire de la France, avec si vous êtes familier un petit peu avec l'histoire du massacre de la Saint-Barthélemy, tout ça, c'est ça, c'était des guerres politiques, des enjeux politiques, de la petite politique qui a fait que les Huguenots qui arrivaient avec l'Évangile ont été massivement chassés de la France parce que la lignée qui voulait prendre le trône, c'était à coquiner, a fait alliance avec l'Église catholique. Et donc là, ça a été un massacre incroyable. En une nuit, des milliers, des milliers, des milliers de personnes ont été massacrées. Les Huguenots ont compris le message, ont migré en Angleterre en masse, d'accord, en Suisse. Ils se sont sauvés de la France. Bon, je peux regarder ça 100 ans après puis dire les Français sont orphelins spirituellement. C'est vrai. Vous comprenez? C'est un rejet du message du christianisme quand même. Et donc, c'est ça que Jérémie dit ici. Et ce que Francis Schaeffer est en train de dire, c'est que lorsque on annonce l'Évangile à cette société-là, à cette culture, il ne suffit pas de dire « Pauvre vous, vous êtes orphelin ». Ça ne suffit pas, ça. D'accord? Ou de dire « on vous a mal présenté l'Évangile et c'est pour cette raison-là ». Merci, John. On vous a mal présenté l'Évangile et c'est pour cette raison-là. Bien, si vous voulez savoir la réponse à cette question-là, est-ce que les Québécois ont rejeté l'Évangile parce qu'on leur a mal présenté? Présentez-leur l'Évangile, vous allez le savoir. Comprenez? Donc, il y a un temps où je peux regarder dans mon histoire passée puis dire, bien, si on est là, c'est parce que. Mais il y a un moment où on doit dire, bien, si je suis encore là demain, ça sera pour une autre raison. Ça sera parce que moi, j'aurais décidé de rejeter l'Évangile. D'accord? Et donc, Francis Schaeffer insiste sur ça. Il dit, on peut pas juste approcher les gens en les aidant, en les amenant à se voir comme des victimes de leur histoire. Ils doivent assumer leur histoire à un certain moment donné et prendre possession de leur histoire puis la construire. Francis Schaeffer identifie dans le discours du prophète Jérémie des péchés spécifiques. Et chaque fois qu'il y a apostasie, il y a des péchés moraux très, très clairs qui sont là, des péchés moraux qui vont être liés aux finances, à la sexualité, à la maison, aux relations dans la société. Et donc, il identifie un certain nombre de péchés. Dieu ne va pas simplement adresser, Dieu ne s'en prend pas seulement à l'attitude du cœur. Il s'en prend aussi à ce que cette apostasie-là entraîne dans les relations sociales, dans les relations entre les êtres humains. Et enfin, là où ça devient plus concret dans quelque chose qu'on articule beaucoup ici à l'Église, ce que Jérémie reproche, ce que Dieu reproche à travers son prophète au peuple d'Israël, c'est qu'il dit « Vous avez cherché votre sécurité en quelqu'un d'autre. » Dans l'Égypte, dans Babylone, vous avez cherché votre sécurité, ça vous a amené à vous confier en d'autres dieux qu'en moi. Et en fin de compte, ce qu'il est en train d'adresser, c'est ce que vous entendez souvent dire, c'est qu'on est tous des adorateurs. Notre cœur est fait pour adorer. Et donc, notre cœur va vouer un culte à quelque chose ou à quelqu'un. Un point, c'est tout. Ça peut être à moi-même, ça peut être à des valeurs de la société. Certains vont se consumer à vouloir bâtir une carrière, c'est des valeurs matérialiste dans le sens de consommation, d'image. Et ça, c'est l'idole qu'ils sont en train d'adorer. Ils sont en train de vouer un culte. Ça peut être des valeurs même familiales, où tout ce que je veux faire, c'est bâtir ma petite famille. John Wesley, je l'ai mentionné déjà à plusieurs reprises à travers les années. John Wesley était un prédicateur dont Dieu s'est servi pour opérer des grands réveils. Et une des grandes déceptions, plus tard dans son ministère, peut-être une vingtaine d'années après qu'il ait commencé à annoncer l'Évangile, il a vu sous son ministère des milliers d'hommes quitter l'alcoolisme, quitter l'ivrognerie. Il y avait des gros problèmes de boissons à cette époque-là. Donc, les hommes n'arrivaient pas à construire une maison, ils n'arrivaient pas à bâtir un foyer, ils n'arrivaient pas à avoir un emploi stable parce qu'ils avaient tous ces problèmes-là. Ils se convertissent et puis John Wesley leur dit, et il commence à leur adresser des reproches. Je vous retrouve 20 ans plus tard et tout ce que ça vous a donné, tout ça, c'est que ça vous a permis de vous installer pour vivre sur la terre pour l'éternité. Vous avez pris ça pour mettre de l'ordre dans votre vie et vous bâtir un royaume sur la terre. C'est pas à ça qu'on est appelé. Puis là, il adresse toute la manière que ces gens-là géraient leurs finances personnelles parce qu'effectivement, ils étaient de plus en plus prospères et prenaient ça pour eux-mêmes. Voyez-vous? Et donc, hop, on a juste changé d'idole. On a fait un détour par l'Évangile pour être libéré de quelque chose, mais pour aller accrocher une autre idole après. Et donc, Francis Schaeffer est en train de dire, ça c'est un pattern. Ça c'est un pattern du cœur humain. C'est ce qu'on observe avec le peuple d'Israël, sous le ministère de Jérémie. C'est ce qu'on observe lorsque Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, puis à la communauté, aux gens à Rome. Et c'est ce qu'on observe dans nos vies à nous. Et donc, si on veut être à l'abri de ça, il faut toujours qu'on soit en train d'examiner qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur, qu'est-ce qui m'excite le plus, où est-ce que je trouve mon plus grand repos, qu'est-ce qui m'aide à me lever le matin puis à me lancer dans ma journée, Où est-ce que je vais me réfugier quand je vis des moments de détresse? Où est-ce que je trouve cette sécurité-là quand il y a des moments de détresse? Je veux dire, à celui qui connaît les Écritures, on sait la bonne réponse, c'est quoi? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est l'Évangile. Je m'en vais toujours trouver ma sécurité dans mon identité d'enfant de Dieu. Et ce que je veux voir, c'est le royaume de Dieu prospérer, avancer, voir des gens venir à Christ, voir l'Évangile grandir dans mon cœur, à moi, Christ être formé dans mon cœur. Et donc, je dois être à l'affût, je dois examiner ça constamment. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Alors, voyez-vous, on passe d'une idole qui est très matérielle, des faux dieux, mais en réalité, c'est encore de l'idolâtrie. Puis quand vous nous entendez parler de ça dans les messages, le lien est là, il est très clair, même si des fois ça peut sembler abstrait, parce qu'on va dire, mais moi, j'adore pas des idoles. Bien, Israël se sentait menacé par la Syrie qui s'en venait les envahir, puis Dieu était leur Dieu, puis Israël a décidé d'essayer d'aller traiter alliance avec l'Égypte pour dire, écoutez, si vous voyez la carte d'Israël, le territoire d'Israël est un passage économique super important, d'accord? Parce qu'on naviguait moins par mer, la mer était beaucoup moins sécuritaire, beaucoup de piraterie, tout ça. Donc, les gens passaient par là. Et Israël se servait de ça pour aller négocier des alliances. Vous avez besoin de passer sur notre territoire. Celui à qui on était sujetti, son économie va prospérer. Et donc, menacés par la Syrie, ils veulent aller traiter alliance avec l'Égypte. Puis ça les entraîne dans toute la suite, parce que Dieu leur avait dit, vous ne ferez pas d'alliance avec des pays qui sont païens. Ça va vous entraîner, votre cœur va être entraîné là-dedans aussi. En voyez-vous, c'est ça. Israël a peur, s'en vont traiter alliance avec l'Égypte, sont emportés avec les dieux des Égyptiens. Quand tu as peur, où est-ce que tu fais alliance? Tu as perdu ton emploi, insécurité amoureuse, peu importe dans ta santé. Où est-ce que tu fais alliance? Où est-ce que tu vas chercher ta paix? Et ces questions-là nous aident à identifier des idoles dans nos vies, dans nos cœurs. Ça, c'est précieux. Des fois, faites attention si vous voulez enseigner les enfants, si vous voulez en parler avec des gens autour de vous. Comprenez que pour vous, là, une fois que le concept est là, je peux me servir du mot idole, mais ça peut être super abstrait puis mêlant pour quelqu'un. C'est quoi le rapport? J'ai pas d'idole dans ma vie, tu sais. Mais il faut aller dire, c'est quoi l'attitude de celui qui adore? C'est quoi une dévotion? C'est quoi une passion? C'est quoi qui t'allume? C'est quoi qui te drive? Bon, mais ça, probablement que c'est ton idole. Probablement que c'est ton idole. Si la personne a dit non, moi, ce qui me drive, c'est que je veux prendre soin de mes enfants, puis je veux les aider. OK, c'est peut-être pas une idole. Comprenez, c'est pas que le chrétien n'aime plus rien à part Dieu, c'est pas ça. C'est qui est mon Dieu? Ou qu'est-ce qui est mon Dieu? Est-ce que vous avez des questions sur ça avant qu'on passe à la prochaine leçon? Ça va? À la page 3, les trois péchés principaux, lorsque je parlais de péchés moraux, que Jérémie reproche au peuple, l'idolâtrie, la débauche, l'avarice. Une fois qu'on a compris que l'idolâtrie prend bien d'autres formes que d'adorer des petits dieux en bois qu'on a sculptés nous-mêmes, bien après ça, c'est évident que ces trois péchés-là sont hyper communs dans notre société et puis nous guettent nous aussi. D'accord? Parce qu'on vit dans une société où C'est possible d'être prospère, c'est possible de trouver le plaisir dans la vie simplement à travers l'acquisition de biens, la possibilité de partir en vacances, des choses comme ça. Je pense que ça couvre la leçon 3. La leçon 4. Peut-être que vous allez trouver que cette leçon-là s'applique moins à vous, personnellement. Maintenant, si vous êtes parent, ça s'applique à vous. Si vous êtes appelé à exercer un rôle d'influence, ça s'applique à vous. Et ça s'applique aussi à tous les chrétiens pour avoir du discernement. Voilà quelques mois, j'avais écrit un commentaire sur Facebook. Concernant une publication par un pasteur, en fait le pasteur le plus populaire des États-Unis, Joel Osteen, qui est un baptiste présumément, mais en même temps il enseigne l'évangile de la prospérité. Ça veut dire que lorsque tu crois Jésus, Dieu va te bénir. Si tu ne recouvres pas la santé, si ton compte de banque ne se remplit pas progressivement, si tu ne prospères pas financièrement, c'est soit qu'il y a un manque de foi dans ta vie. À partir du moment où tu as Jésus dans ton équipe, ces choses-là devraient venir progressivement. Et puis, donc ça, c'est la théologie de la prospérité qui est beaucoup fondée sur la pensée du monde, pensée positive. C'est une question de visualisation, c'est une question de se voir là, de voir ces succès-là apparaître dans ma vie. Puis il faut que je me voie là. Fait qu'ils passent à travers la Bible, puis ils ont une espèce de tamis où ils vont chercher tous les passages bibliques qui nous parlent justement de bénédiction de Dieu. Beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, entre autres. Puis là, là-dessus, il y a une faute majeure, dans le sens que c'est clair que être prospère sous la nouvelle alliance avec Jésus-Christ peut impliquer que tu n'as pas une scène, tu es tout nu puis tu finis martyr, d'accord? Puis tu es très prospère dans le royaume de Dieu. Fait que ça, c'est pas beaucoup là dans les prédications de Joel Austin, vous comprenez? Moi, j'ai jamais entendu ça. Fait que j'ai lu des bouquins de lui, écouté des messages. Mais j'essaie de faire attention, parce que Dieu nous dit de faire attention, de juger un autre, spécialement un autre pasteur. En même temps, clairement, Paul décriait des hérésies, donc il y a des moments où il faut le faire. Puis fait que j'avais écrit que j'avais, partagé un article que j'avais lu, que je trouvais qui était respectueux, mais très clair. Puis je me suis fait ramasser, mes amis, là. Je me suis fait ramasser par une dame qui est supposée être mature, qui n'est pas de l'Église ici. Puis en fin de compte, son discours, c'était on ne doit jamais parler contre un pasteur, un personnage public, parce qu'inévitablement, on attaque la réputation de Dieu. Puis c'était juste ça son point. Et j'ai posé la question, mais j'ai dit, c'est quoi mon rôle à moi d'abord? Je ne suis pas là pour discerner des faux enseignements, des fausses doctrines, puis les exposer, parce que il y a des gens qui vont acheter ça à la librairie chrétienne, les livres de Joel Austin, c'est un des plus gros vendeurs. Il faut que je me ferme la trappe. Sa réponse, c'était oui. C'était oui. Donc à la fin, j'ai dit, OK, I rest my case, c'est beau. Dieu sera mon juge. Si ça s'applique moins directement, ça s'applique aussi pour le discernement. D'accord? Puis quand je dis ça, il faut faire attention. J'entends des fois des affaires aussi sur d'autres églises, puis les oreilles me sillent parce que les gens jugent sans savoir. T'sais. Fait que une des décisions que moi j'ai prises il y a quelques années, j'ai pris la décision que chaque fois qu'il va y avoir une église bizarre qui va ouvrir au Québec, puis que je vais avoir tendance à la juger dans mon cœur, ça c'est mon privilège comme pasteur, je vais contacter le pasteur, puis je vais lui demander qu'on passe 2 heures ensemble au restaurant. Je vais l'inviter à manger, puis je vais aller l'écouter. Puis à la fin, ça se peut que je dise, moi, il est vraiment bizarre puis dangereux, mais au moins j'aurai jasé avec, puis j'aurai évalué ces choses-là. D'accord? Donc c'est pas qu'on veut être ceux qui sont en train de pointer tout le monde du doigt comme des propres justes, mais en même temps, il faut user de discernement. Il faut être capable de dire lorsqu'il y a des choses qui sont fausses, qui sont hérétiques. Et donc, ce que Jérémie fait ici, et ce que Francis Schaeffer adresse, c'est qu'il dit, Dieu ne s'en prend pas simplement à l'Église. Dieu s'en prend aux chefs spirituels. Dieu est très sévère avec les chefs spirituels. À la page 1 de la leçon 4, vous pouvez lire dans le haut une citation, Jérémie 22, 11, et 12. Car ainsi parle l'Éternel sur Shalom, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus, mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif. Il ne verra plus ce pays. Et il leur annonce que les temps des réjouissances est à son terme, Dieu se préparant à châtier sévèrement son peuple. Je vais lire l'autre passage. Jérémie 25, 8 à 10, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, qui était un païen, absolument abominable, mais Dieu dit, c'est mon serviteur. Je vais me servir de lui pour vous châtier. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour. afin de les dévouer par interdit, c'est-à-dire éliminer carrément, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule qui moule le grain, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'abondance, et la lumière de la lampe, il n'y aura plus d'huile pour allumer les lampes. Alors, quelle attitude avoir devant notre époque post-chrétienne qui a rejeté la Bible comme parole de Dieu et n'y voit plus qu'une invention humaine? Je lis ça, puis après ça, je commente. Voici ce que Francis Schaeffer dit. « Je dois dire que lorsque je prie pour ma nation et sa culture, je ne fais pas appel à la justice de Dieu. Je ne peux qu'implorer sa miséricorde. Car si Dieu agissait selon sa justice, nous n'aurions pas la paix, mais une situation semblable à celle décrite par Jérémie. Comment pourrions-nous, après nous être ainsi détournés de Dieu et de sa parole, implorer sa justice en faveur de notre culture? » Comment est-ce que Francis Schaeffer voit l'application dans notre société, dans notre époque? C'est toute la vision de la Bible qui voit la Bible comme un livre mythique, un livre d'inspiration. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une parole qui parle de Dieu. Elle n'est pas inspirée par Dieu, c'est des gens qui ont expérimenté des choses avec Dieu puis qui, à partir de ces expériences-là, nous partagent ça en quelque sorte, leurs impressions de Dieu. Si vous allez dans une faculté de théologie à l'université en général, bien c'est ce genre d'image-là qu'on va vous donner de la Bible. On va dire oui, il y a certainement quelque chose dans la Bible parce qu'il y a des grands mystiques qui ont écrit la Bible. Puis ces grands mystiques-là ont expérimenté quelque chose avec Dieu, puis ils nous partagent ça. Donc il faut comme aller faire du ménage dans tout ça, puis nous-mêmes être inspirés pour chercher ce Dieu-là à quelque part. Ce n'est pas du tout ça que la Bible dit. Ce n'est pas du tout ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit que Dieu a inspiré les mots qui sont là parce que Dieu s'est exprimé clairement. Et Dieu n'est pas un mystique qui parle à des mystiques à travers des expériences intuitives, pas claires. Dieu parle à travers des propositions. Une proposition, c'est une idée qui est claire. Vous êtes pécheur, je suis saint, vous êtes damné. Voici ma proposition, c'est à prendre ou à laisser. C'est pas je sens que je viens de quelque part et que je m'en vais ailleurs. Puis je pense que ça fait partie de la révélation générale de Dieu. Comprenez? Vous me suivez lorsque je parle de révélation générale spéciale? Il y a plusieurs fois que je le répète dans les dernières semaines. Oui, intuitivement, c'est ça que je mentionnais dans mon petit message hier pendant le mariage, intuitivement, je peux percevoir des choses sur Dieu à travers la création. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là dans sa révélation. Dieu est une personne, trois personnes en une, qui communiquent entre elles, qui communiquent avec nous à travers des choses très claires, qui sont dites clairement. Et donc, ce que Schaeffer nous dit ici, il dit bien, voici principalement ce que les chefs religieux ont fait. C'est qu'ils ont enlevé toute l'autorité à la Bible. Donc, lorsque vous écoutez... J'oublie son nom, mais une théologienne, je pense que c'est elle qu'on entend le plus souvent à Radio-Canada. Elle enseigne à une des universités montréalaises. Et puis, c'est ça, c'est généralement intéressant les réflexions qu'elle va faire sur la société. Fait qu'en termes de sociologie, il y a des choses intéressantes qui sont dites. Mais en termes de révélation de Dieu, il n'y a rien là du tout. Là. Lorsque comment est-ce qu'il s'appelle l'abbé qui est décédé vers la fin de l'année 2014, là, qui était très connu? Pardon? L'abbé Gravel, je vous dis, cet homme-là, de sa propre confession, disait qu'il avait énormément peur de la mort. C'est ça qu'il disait. Il avait très, très peur de la mort parce qu'il n'avait absolument aucune certitude sur ce qui l'attendait après. Mais là, on parle d'un des religieux qu'on entendait le plus souvent dans les médias publics au Québec. D'accord? Fait que je suis triste pour lui, pour son âme à lui, mais Dieu va le juger sévèrement, non seulement pour lui-même, mais parce qu'il osait prendre la parole au nom de Dieu, au nom de la foi, puis c'est ça qu'il enseignait au peuple. Il confortait le peuple dans une vision de la Bible où le peuple ne peut pas aller puiser dans la Bible, ne peut pas aller chercher la révélation. D'accord? Maintenant, nous, on est un petit peu dans une espèce de vase clos au Québec parce qu'on n'a pas vu le protestantisme s'installer très solidement puis suivre toute cette vague-là. Fait que dans notre esprit à nous, c'est comme la faute de l'Église catholique. Si c'est ça que vous pensez, vous ne connaissez pas vraiment l'histoire du christianisme en Occident. D'accord? Le protestantisme a pris beaucoup, beaucoup de place aux États-Unis, dans le reste du Canada, en Europe énormément, en Angleterre. Et aujourd'hui, certainement la majorité des églises protestantes, des grandes églises protestantes, nous présentent la Bible de la même manière qu'un théologien catholique à l'université nous présenterait la Bible. D'accord? Alors, si vous allez dans l'église luthérienne, dans bien des églises réformées, si vous allez bien des églises presbytériennes maintenant aussi, la course est très, très, très rapide. Là. On s'en va dans cette direction-là très rapidement. Pour plusieurs, c'est déjà fait depuis un siècle. D'accord? Et donc, dans ces églises-là, vous avez autant de christianisme, je pourrais dire, que ce que vous allez trouver dans l'église catholique. D'accord? La doctrine, si vous allez lire leurs bouquins, est plus près de la Bible que la doctrine de l'Église catholique. Salut par les œuvres ne sera pas là. Prière des saints ne sera pas là. Mais ce qui est enseigné en chair, ce qui est communiqué, ça n'a pas plus de substance que ce que vous allez trouver dans l'Église catholique. D'accord? Et donc, Francis Schaeffer, je vous le rappelle, était un Américain, étudiant philo, tout ça, s'est converti en lisant la Bible, est devenu pasteur dans une église presbytérienne, a exercé son ministère pastoral aux États-Unis quelques années, puis rapidement est allé en Europe francophone avec son épouse. Puis là, il est tombé sur le dos. Parce que lorsqu'il partait des États-Unis à cette époque-là, on parle des années fin 70-80, lorsqu'il partait des États-Unis à ce moment-là, le mouvement évangélique était encore très fort. Et donc, il y avait un fond chrétien assez présent aux États-Unis. Mais lorsqu'il est arrivé en Europe, là, il a frappé un mur complètement parce qu'il a rencontré ce protestantisme-là. De temps en temps, je cite Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant dans une église réformée sous le régime nazi, un des seuls pasteurs en Allemagne qui s'est opposé vraiment à Hitler. Il a été mis à mort pour avoir participé à deux complots pour essayer d'assassiner Hitler. Ce serait une autre grande question. Est-ce qu'un pasteur peut essayer d'assassiner un chef politique? Mais Dietrich Bonhoeffer était en Europe. Il était dans son église. Puis là, il voyait le régime nazi qui était en train de prendre place progressivement, puis il se disait, ça ne peut pas être chrétien puis rien dire, c'est impossible. Et puis, c'est lorsqu'il est allé aux États-Unis, donc là, on se ramène là avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Il est arrivé aux États-Unis, puis c'est dans des églises américaines à New York qu'il a trouvé enfin des églises qui vibraient vraiment avec l'Évangile. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, là, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, ça va? 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, Francis Schaeffer s'en va en Europe. Dietrich Bonhoeffer était en Allemagne, lui, 20 ans plus tôt, puis déjà, il constatait ça dans l'Église. Quand Schaeffer arrive là-bas, il tombe sur le dos. Il dit, les églises protestantes européennes ont complètement perdu l'Évangile. Et ils sont embarqués dans une espèce d'approche de la Bible qui est une vision, une approche de démythologisation de la Bible. Où tout ce qui est surnaturel, on va le définir comme un mythe, puis là, on va commencer à enlever les mythes, où on va trouver les leçons morales qu'il y a à l'intérieur des mythes. D'accord? Et donc, Francis Schaeffer est en train de dire, ces chefs-là vont avoir à rendre compte doublement. Ça me frappe dernièrement comme pasteur, j'ai des discussions avec des gens puis sur la doctrine, puis je disais à mon épouse, je disais à Stan cette semaine, j'ai dit, c'est pas pour rien que Dieu dit... que peu d'entre nous doivent être des enseignants. On va vraiment rendre compte pour ça. Puis, la difficulté qu'on a des fois, c'est qu'on voit dans l'Ancien Testament cette promesse qui est donnée que lorsque Christ va venir, un cœur nouveau va nous être donné, l'Esprit va venir en nous, puis Ézéchiel va dire qu'on va tous devenir des enseignants. D'accord? Il dit, vous n'aurez pas d'enseignants, vous allez tous être des enseignants, vous allez pouvoir vous enseigner les uns les autres. Puis la manière que je comprends ça, parce que si ça veut dire qu'il n'y a plus d'enseignants en avant, ben et Jésus et les apôtres n'ont absolument rien compris de cette prophétie-là, d'accord? Parce qu'ils instaurent l'Église avec des apôtres, puis avec des pasteurs, puis tout ça. Donc, comment comprendre ça? Puis je l'ai déjà expliqué à l'Église, mais la manière que je comprends ça, c'est que aujourd'hui, quand moi j'enseigne à des gens, si vous avez cru, qui avaient l'Esprit Saint. Et donc, lorsque j'expose les Écritures, fondamentalement, si je suis en train de bien le faire, ça va résonner en vous de manière évidente, très rapidement, parce que le même esprit est en vous. Et ce que ça donne aussi, c'est qu'après 5, 10, 15, 20 ans, à être dans une église où on enseigne la parole de Dieu semaine après semaine, le plus possible en exposant vraiment les Écritures, pas aller piger des sujets qui nous intéressent un peu partout, mais régulièrement être en train d'exposer un livre biblique. Il y a une espèce de discernement qui s'impose parce que tout le monde a l'Esprit Saint. Et puis, des fois, je le dis comme ça à des gens. Je dis, quelqu'un qui est placé sous ce ministère-là puis qui a l'Esprit, même s'il n'y a pas toute sa théologie systématique qui est bien, bien cadrée, puis il va pouvoir tout faire les liens puis tout ça, il y a une espèce de seconde nature qui s'installe. Il y a un radar qui est là. Puis lorsqu'il rencontre une fausse doctrine, il y a une petite lumière qui s'allume, il dit « Attends un petit peu, là. Faut que j'ai creusé ça, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce que tu dis là. » Là, il commence à faire des liens, commence à faire des recherches, puis on va trouver ces choses-là, d'accord? Mais effectivement, Dieu va juger plus sévèrement ceux qui enseignent la parole de Dieu, dont c'est la responsabilité. Et c'est sûr que moi, personnellement, ça me fait réfléchir. Au haut de la page 2, malheur au chef, Jérémie s'en prend particulièrement aux dirigeants du peuple. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. C'était une manière d'humilier des chefs, d'aller dépouiller leur sépulcre, de violer leur sépulcre, de sortir leurs os puis de les jeter dans une fosse commune. D'accord? Et il dit ça, c'est le jugement qui va être administré à travers mon serviteur Nebuchadnezzar, par exemple. D'accord? C'est qu'ils ne seront pas honorés comme ils auraient dû être honorés. Francis Schaeffer dit, c'est ce message que nous devons prêcher à notre monde post-chrétien. Il nous faut bien sûr traiter les hommes avec beaucoup d'amour et leur parler avec humanité. Mais il ne nous est pas permis d'édulcorer, ça veut dire d'adoucir notre message ou de l'amoindrir. Les chefs religieux de notre époque induisent eux aussi les hommes en erreur. Et la Bible ne dit nulle part que la position de chef religieux mettra qui que ce soit à l'abri du jugement de Dieu, bien au contraire. Et donc oui, il y a une responsabilité super grande. Et cette dame-là qui m'a apostrophé... parce que je dénonçais les enseignements de Joel Austin, est complètement dans l'erreur. Complètement dans l'erreur. Francis Schaeffer dit qu'une des plus grandes fautes que peuvent commettre les chefs religieux, c'est d'annoncer la paix. C'est d'annoncer la paix quand le peuple de Dieu devrait être inquiet. Et c'est ça qu'il faisait. Jérémie 6,14, « Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Donc les chefs religieux leur disaient, « Oubliez pas qui vous êtes des fils d'Abraham. On a le temple, Dieu est avec nous. » Mais Dieu n'est plus avec eux. Dieu les a quittés, Dieu les a abandonnés. Dieu n'est plus là, et ce n'est pas le temps de dire paix, paix, c'est le temps de dire repentez-vous. Si vous voulez trouver la paix, repentez-vous. Et c'est définitivement... ce à quoi sert la religion actuellement, c'est à donner une fausse paix. Est-ce que c'est vrai? Que ce soit dans l'Église catholique, que ce soit maintenant la nouvelle approche, si vous êtes allé dans un service funéraire, de plus en plus, ça ne se fait pas à l'Église, ça se fait directement dans le salon funéraire, et ça peut être un petit peu n'importe qui va conduire ce temps-là, ce moment-là, d'accord? Alors, il y a 10-15 ans, les chrétiens évangéliques au Québec, on était outrés d'aller dans un service funéraire. Puis, je sais pas, tu avais ton oncle qui avait eu une vie tout croche, de pas d'allure, puis tu entendais le curé dire « Il est tellement bien maintenant, il veille sur nous, il est ici pour prendre soin de nous, puis tu l'as accueilli. » Mais je veux dire, il est très conséquent, il faut s'entendre. Là. Je veux dire, dans le pire des cas, il fait une centaine d'années dans un purgatoire, puis c'est vrai qu'il est correct parce qu'il a été baptisé lorsqu'il était bébé. D'accord? Donc, dans sa théologie, on n'est pas si loin que ça quand même de la théologie catholique. Là. C'est juste qu'il faudrait dire, ben, ça vaut peut-être la peine de brûler une coupe de cierge parce que ça se peut qu'il chauffe un petit bout avant d'être dans le party. Puis là, je veux dire, les choses qui moi, à l'époque, me scandalisaient le plus, c'est lorsque je savais qu'on avait fait un service funéraire pour un Hells, admettons. Là, je me dis, non, mais c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi, cette affaire-là. Mais on est rendu à une autre étape maintenant. Maintenant, ça se fait plus dans l'église. Ça se fait dans le salon funéraire. Puis ça se peut que ce soit un membre de la famille qui conduise ce temps-là. Puis qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ben. Puis, honnêtement, là, chaque année, j'entends des dizaines, au moins une dizaine, de chrétiens me dire, écoute, il est tellement mieux maintenant. Je ne sais vraiment pas s'il est mieux. Je ne sais pas, vraiment pas s'il est mieux, tu sais. Couché au lit, alité, à moitié inconscient, impossible de manger, en train de souffrir terriblement tous les jours. Écoutez, c'est des vacances au Club Med comparé à l'enfer. C'est des vacances au Club Med comparé à l'enfer. Fait que je ne sais pas s'il est vraiment mieux rendu de l'autre bord. Comprenez? Au moins, il ne souffre plus. Non, au moins, tu ne le vois plus souffrir. C'est ça la vérité. Puis je comprends, là, je veux dire, le jour où ça va être mes proches, là, vous comprenez que je vais juste prier pour une chose, qu'ils se convertissent avant, puis si on peut y arriver, moi, j'ai pas de problème avec ça. Va rejoindre le Seigneur, ça presse, parce qu'ici, ça fait mal. J'ai pas de trouble avec ça, vous comprenez? Oui, Célia. Je vais répéter. Oui. Oui, oui. Comment je le fais? Oui, oui. Comment est-ce que je fais si j'ai un service à faire pour quelqu'un qui, selon toute probabilité, n'est pas sauvé? Bien, la situation la pire que moi j'ai vécue, c'est faire le service pour un cousin à mon épouse qui s'était suicidé, qui n'était pas du tout chrétien, c'était évident, puis qui s'est enlevé la vie. Pour être très honnête avec les gens, ce que je fais, c'est que je dis, écoutez, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge où on va après. J'ai une certitude absolue. Votre frère, votre ami qui est parti, aujourd'hui, veut que vous écoutiez l'Évangile. Qu'il soit au ciel ou non, aujourd'hui, j'ai une certitude, parce que j'ai un indice dans les Écritures avec Lazare et le mauvais riche. Aujourd'hui, tout ce qu'il souhaite pour vous, c'est que vous écoutiez le message de l'Évangile. Ça, je peux vous l'assurer. Fait que c'est comme ça que je le fais. Je peux pas, si je suis là puis je les rassure, je suis un faux prophète, vous comprenez? Puis je les amène, eux, dans une mauvaise sécurité. Moi, mon premier contact avec ça, c'est lorsque je travaillais, là, ça fait longtemps, là, je suis vraiment vieux, mais ça fait 22-23 ans, lorsque je travaillais comme préposé aux bénéficiaires, puis je savais qu'on formait les infirmières à accompagner les gens à mourir en leur disant, tu vas être tellement mieux. Puis la formation, à l'époque, c'était... On sortait des tendances nouvel âgistes, là, le New Age, au niveau d'une spiritualité un peu orientale, intégrée, tout ça, le mouvement du nouvel âge. Et donc, les infirmières étaient formées, dans le fond, ils étaient formés comme des prêtresses, on pourrait dire, à accompagner les gens dans cette espèce de mensonge-là incroyable, puis à leur donner une fausse sécurité, et puis à leur dire, regarde, vas-y. En même temps, si notre société croit profondément, puis c'est pour ça qu'il faut faire une distinction ici, si la personne qui fait ça, là, elle est convaincue qu'on est juste de la matière, là. Comprenez? On n'a pas d'âme, il n'y a pas d'éternité. Elle est 100% conséquente. Tu n'as plus de plaisir à vivre, tu es juste des molécules. Tableau, laisse-les s'éparpiller tes molécules, puis te faire manger par la racine, c'est tout, là. Tu es juste de la matière. C'est pas ça que Jérémie est en train d'attaquer ici. Vous comprenez? Là, Jérémie aurait dit, ben, eux sont aveugles, puis vous avez la vérité. Fait que réveillez-vous, puis allez leur apporter la vérité. Il s'attaque à ceux qui prétendent croire en Dieu, puis annoncent une fausse paix. Vous comprenez? Donc, c'est très différent. Puis, il s'agit pas pour nous d'être hautains, puis de juger la société en général. Puis, au contraire, on sait d'où on vient. On devrait être rempli de compassion. Puis, même pour ces dirigeants-là qui enseignent des mensonges. Mais en même temps, ma compassion ne fera pas que je ne dirai pas à un prêtre, c'est extrêmement grave ce que vous enseignez pour votre âme puis pour toutes celles à qui vous enseignez. Puis vous avez une Bible en passant juste là-bas, vous ne la connaissez pas, vous n'avez aucune idée de ce que vous enseignez. Puis ça, c'est dangereux, puis c'est grave. Puis Dieu va vous juger sévèrement pour ça. Je vous dirais que c'est encore plus pire lorsque tu es dans une église où il y a la saine doctrine. Puis historiquement, tu décides de la laisser aller pour adopter des trucs comme l'évangile de la prospérité. Je ne voudrais pas être à sa place. Je ne voudrais pas être à sa place. C'est bon? C'est joyeux ce matin. On va terminer avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, Seigneur, si on considère toutes ces choses, c'est pas pour se placer au-dessus de qui que ce soit. C'est pour examiner nos cœurs, premièrement, et reconnaître que nous sommes tous en danger, Seigneur, de déraper, de s'engager dans de la religiosité, de se laisser happer par des péchés qui sont les péchés de notre époque, de notre temps, Seigneur, parce que le vieil homme veut prendre le dessus, on veut retourner là, Seigneur, d'aller trouver notre sécurité, notre paix, notre joie, notre réconfort, notre stimulation pour vivre, Seigneur, ailleurs qu'en toi. Ce sont tous des choses qui nous menacent nous-mêmes, Seigneur. Et moi, comme enseignant, et ceux que nous formons ici comme enseignants, Seigneur, nous sommes appelés à nous examiner. Mais comme Francis Schaeffer l'a dit, Seigneur, je ne veux pas appeler ton jugement sur ma nation, parce que si tu frappes ma nation, Seigneur, comment auront-ils l'opportunité de se repentir? Je veux appeler ta miséricorde, Seigneur, sur mon peuple, afin qu'on puisse prêcher l'Évangile, et que tous ces gens qui prétendent conduire des gens vers la paix, Seigneur, puissent découvrir que cette paix est fausse et découvrir là où se trouve la vraie paix, qui est en toi, Jésus-Christ. Amen.